Bonjour, messieurs, dames. Bien, nous allons commencer la leçon en finissant avec le problème des yachts. Nous avons commenté ce problème durant deux leçons consécutives. Aujourd'hui, je voudrais peut-être envisager le grand enseignement au point de vue conceptuel que nous a apporté l'édition multiple d'un certain nombre de textes des Yachts. Vous savez, aux alentours des années 90, avant que le Yacht 19 ne soit édité, enfin édité entre guillemets, hein, c'est-à-dire étudié par trois personnes particulières et avec chacun leurs idiosyncrasies, ce qui est d'autant plus intéressant, eh bien, il était régulier, je crois l'avoir écrit aussi, ou tout au moins l'avoir dit dans une conférence, que cette doctrine tellement importante dans les livres moyens perses, que l'on appelle la doctrine des millénaires, nous ne pouvions pas savoir si le mazdéisme de l'époque avestique la connaissait déjà. C'était une sorte de controverse un peu fausse, parce qu'elle manquait d'arguments décisifs. Et par exemple, elle avait, à la fin des années 80 encore, opposé Mary Boyce à Philippe Gignoux. Hein. Mary Boyce répétant, elle ne pouvait rien faire d'autre, ce qui était déjà la position de Martin Haug un siècle plus tôt, à savoir que nous n'avions aucune raison de douter que la doctrine des millénaires faisait partie intégrante de la doctrine mazdéenne dès ses origines, et donc que l'Avesta devait la connaître, même si nous ne la trouvions véritablement nulle part. Quant à Philippe Gignoux, il faisait de la doctrine des millénaires un emprunt extrêmement tardif du mazdéisme aux apocalypses juives et chrétiennes. Donc, c'était les deux thèses en présence. Or, le Yacht 19 nous a rappelé, hein, simplement. Pourtant, c'était une évidence, la crève les yeux, mais ce n'est pas la première fois que l'on ne voit pas l'évidence que le Yacht 19 raconte l'histoire du monde. Il est composé, son canevas est essentiellement celui-là. Hein. Nous en avons parlé en partie la fois dernière, car le Yacht 19 s'ouvre sur la description de la fondation des montagnes, de la formation des montagnes, ce qui est un aspect de la cosmogonie. Il a choisi celui-là. Bon. Et il se termine avec l'élimination définitive du mal par ce fils posthume de Zarathoustra, qui est le Saoshiant par excellence, ce qui veut dire simplement le dernier sacrifiant. Le sacrifice de ce fils posthume de Zarathoustra sera le dernier sacrifice, parce que ce sacrifice-là sera décisif. Il accomplira ce que tous les autres sacrifices qui se succèdent depuis le début des temps sont censés anticiper, à savoir l'élimination définitive du mal et de la mort, et aussi la résurrection finale des morts. C'est le canevas même du Yacht 19. Donc, l'histoire même, l'histoire cosmique, telle que le mazdéisme d'époque moyen-perse pouvait la composer, existe dans l'Avesta. Lors de la deuxième édition du Yacht 19 par Madame Almuth Hintz, dans deux brefs notes, Ilya Gershevitch, dans l'article de 95 dont nous avons parlé pour d'autres raisons, et Cherveux lui-même, peut-être un peu malicieusement, dans les mélanges offerts à Philippe Gignoux, a fait remarquer que, effectivement, le Yacht 19 était un témoin irréfutable de la doctrine des millénaires, à une chose près, hein, un détail près. Nous ne savons pas si le temps était chronométré. Ce que nous avons, c'est le cours de cette histoire du monde censée durer 12 000 ans. Très schématiquement, je ne vais pas répéter cela, les choses se présentent comme, de la manière suivante. Lors de la cosmogonie, pendant 3000 ans, le monde se trouve à l'état purement mental, ce qui peut vouloir dire qu'il n'existe que dans la pensée de son créateur. Après 3000 ans, le monde matériel, le méno en moyen perse, le monde mental, le monde matériel, le ghétique en moyen perse, existe, mais il est immobile. Il est immobile et sans adversaire. Alors, ce produit, il faut bien que nous mettions les termes moyen perse dans ici, ce produit, après ces 3000 ans d'existence du monde matériel sans mouvement, ce que l'on appelle l'ebgat. L'ebgat, c'est-à-dire l'assaut d'un Gramainyu, l'attaque d'un Gramainyu sur le monde. L'assaut est repoussé, mais le mélange avec le mal est accompli. C'est ce qu'on appelle dans les livres moyen perses le temps du mélange, le Gumezijn. Après 3000 ans, Zarathustra apporte au monde la daine. Là, vous reconnaissez le mot avestique. C'est la daina. La daina, c'est-à-dire cet ensemble de pratiques sociales et rituelles qui constituent la bonne pratique religieuse. Et puis, le monde est encore censé durer 3000 ans. C'est dans ces 3000 ans que nous nous trouvons toujours, hein, selon la doctrine, donc, et qui a pour fin ce que l'on appelle le ristakese, c'est-à-dire la résurrection des morts. La résurrection des morts, le terme en tant qu'abstrait n'existe pas dans l'Avesta, mais l'Avesta, le Yajna 19 lui-même, d'ailleurs, parle de cette résurrection, mais sous développement syntaxique, hein, comme un véritable syntagme avec verbe, quand les morts se relèveront, dit-il. Les morts vont se relever. C'est le terme qui apparaît en moyen perse. Voilà. Donc, ce temple, ce schéma, donc, est le schéma même du Yajna 19. De beaucoup d'autres textes aussi, si on veut bien le voir. Le Yajna 13, d'une certaine manière, mais de façon un peu plus confuse, est aussi composé sur ce schéma. Il débute par la cosmogonie et se termine par l'évocation de la résurrection finale par le dernier sacrifiant. D'une certaine manière, le Homestorm aussi, mais encore de manière un peu plus confuse, moins visible. Mais enfin, une fois que nous savons que ce schéma narratif était connu des textes avestiques, nous ne pouvons plus douter que c'est un aspect important de la doctrine. Alors, bien sûr, pas de chronométrage, ce n'est pas tout à fait exact non plus, n'est-ce pas ? Une fois que l'on se rend compte que le schéma narratif est là, il appartient à Panaino, Antonio Panaino, dans un article qui est paru en 2000, dans une série italienne, romaine, d'avoir fait remarquer que nous avons de tout petits éléments de mesure du temps dans certains passages avestiques. Nous n'avons pas véritablement d'affirmation, voilà, il y a 12 000 ans, qui sont analysables en quatre périodes de 3 000 ans, etc. Non. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est beaucoup plus discret, mais tout de même, il y a des éléments. Le premier n'appartient pas à l'Avesta canonique. C'est un petit fragment avestique, nous ne savons pas d'où il sort, qui est inséré dans la traduction Pelvi du Videvdate 2.19, et où la question est posée, combien de temps a duré l'état Ménoc du monde, donc l'état du monde durant les trois premiers millénaires. Nous savons donc que cette conception existait, nous savons qu'on lui accordait une certaine durée, malheureusement on n'a pas la réponse. Par contre, l'on nous parle du millénaire durant lequel Yima, le héros mythique Yima, auquel nous avons consacré un colloque, si vous vous souvenez, il y a 2 ans, n'est-ce pas ? Le héros mythique Yima est censé avoir exercé son pouvoir de suspendre la mort durant 1000 ans. ces 1000 ans doivent être compris durant le troisième trimillénium, hein, entre l'Ibgat et la Dène. C'est donc un élément, donc 1000 ans, il semble bien qu'on procède par des chiffres ronds, du moins à l'époque avestique, pour tenter de reconstituer totalement cette chronologie du monde qui apparaît dans les livres Pelvi. Et Panaino a pu faire remarquer, c'était le travail de doctorat d'une de ses étudiantes, Sarah Circassia, avait dû le lui rappeler puisqu'elle s'était attachée à éditer le Yashta 9, que le Yashta 9-10 parle lui aussi de ces 1000 ans durant lesquels a duré le pouvoir sur la mort du héros Yima. Donc voilà un acquis conceptuel important. Il restait un petit élément peut-être à ajouter, c'est que si nous voyons très bien ce que sont ces événements que le Pelvi définit comme Dène et Ristakès, parce que nous avons des équivalents linguistiques au moins approximatifs dans nos récits, il y a quelque chose qui semblait faire défaut, c'est l'Ebgat. L'Ebgat, bon, ça, on voit bien que ça, c'est aussi c'est un terme avestique et un terme avestique sous-jacent. On peut reconstruire Aibigati et la marque avestique est assez claire puisqu'il y a une infection palatale que normalement le moyen perse ne devrait pas présenter. Bon, mais cela est un détail. Or, en 2001, il m'est apparu que le Yashta 13 faisait peut-être le récit, enfin faisait allusion à cet assaut. Il s'agit de la strophe 57 du Yashta 13 qui nous dit, dans la traduction courante, que les Fravashi, hein, donc l'allégorie du choix rituel des hommes, les Fravashi ont, et là, ce sont des âmes préexistantes, hein, c'est-à-dire qu'au moment de l'Ebgat, si même l'humanité n'existe pas encore sous sa forme actuelle, ben les âmes préexistantes des hommes sont là. Donc, les Fravashi ont montré des chemins conformes à Asha, aux étoiles, à la lune, au soleil et aux lumières infinies. Lumières infinies, ce qui veut probablement dire une autre forme d'étoile. Donc, les astres ont été mis en mouvement par les Fravashi, alors qu'auparavant, nous dit le texte, ils demeuraient depuis longtemps au même endroit sans se mettre en mouvement. Et on nous donne cette notation-ci, qui est dans le texte avestique, « Daivanam paro baishankhat »« Daivanam paro draumohu ». Et notre problème, c'est l'ambiguïté de la préposition avestique « paro ». Il se construit clairement dans un cas avec l'ablatif, « dbaishankhat », et dans l'autre cas avec le locatif, « draumohu ». Et « dbaisha », c'est la haine, hein, c'est la nocivité. Et la nocivité des devas, et drauman, c'est l'attaque, hein, c'est se jeter en courant sur quelqu'un, drauman, donc à cause de l'attaque des daivas. Soit dit en passant, les prépositions avestiques sont un grave problème linguistique. Ce que je vous dis là, c'est peut-être pour ceux d'entre vous qui seraient tentés de travailler là-dessus, c'est peut-être une petite invitation, car je crois qu'il faudrait faire une étude systématique de certaines prépositions avestiques. Mais passons. Or, paro, construit de cette manière-là, peut vouloir dire à cause. C'est la traduction qui a été reçue depuis Bartholomée. Mais si nous consultons toutes les attestations de paro, nous apercevons aussi que ça peut vouloir dire, hein, que cela peut vouloir dire avant. Donc, nous avons peut-être ici une allusion, semble-t-il, au fait que tout était immobile, les astres, mais aussi les eaux, etc., hein, avant que les daivas n'attaquent le monde immobile. Et que c'est l'intervention sacrificielle, bien sûr, des Fravashi qui, en repoussant cette attaque, a mis le monde en mouvement, le monde matériel en mouvement. Nous aurions ici véritablement une sorte de petit récit extrêmement discret, rapide, pas de ce que l'on appelle l'Ibgat, et en même temps nous trouvons une variante dialectale peut-être de ce qu'est l'assaut, avec le mot avestique utilisé ici et qui est ouvertement Drauman. Drauman, qui est peut-être ce qui est de toute évidence un synonyme de Aibigati. Voilà l'importance de cette, je ne vais pas dire une découverte, n'est-ce pas, de cette mise en lumière, n'est-ce pas, d'une véritable histoire cosmique, de la doctrine des millénaires avestiques qu'a permise l'édition, l'examen du Yasht 13, nous fournit peut-être véritablement ce qui est la caractéristique même d'une religion iranienne, d'origine indo-iranienne, mais qui est définitivement distincte par un de ses traits constitutifs de la religion indienne. N'est-ce pas ? Je posais la question, le zoroastrisme existe bien sûr, puisqu'il y a un zoroastrisme aujourd'hui, mais depuis quand ? Depuis quand peut-on parler d'un véritable zoroastrisme dans l'Avesta ? Ben, je serais tenté de dire oui dans l'Avesta récent. Pour l'instant, nous envisagerons le problème avec l'Avesta ancien dans les leçons qui viendront. Je dirais oui pour l'Avesta ancien parce que nous possédons peut-être son trait distinctif. Je sais que je ne suis aujourd'hui loin d'être le seul à penser cela. Je vous donne sous la garantie d'autres pensées que la mienne, n'est-ce pas ? Mais sans doute que le trait distinctif de la religion iranienne qui s'est constitué dans l'Avesta récent, c'est la doctrine des millénaires. C'est la doctrine des millénaires. On pourrait dire cela. Alors la question que l'on pose d'habitude du zoroastrisme des Achéménides, bien sûr, il y a deux questions qu'il faut nous poser. Le colloque nous l'a rappelé. Est-ce que les Achéménides pratiquaient la liturgie avestique ou non ? Nous avons donné les raisons pour et contre. Et on pourrait dire aussi, est-ce que les Achéménides se référaient à la doctrine des millénaires ? Malheureusement, nous n'avons pas ça dans les inscriptions, nous ne le voyons pas, mais nous pouvons seulement dire que leur cosmogonie, elle est éthique, elle est brève, c'est un simple schéma de création du monde, elle n'est pas en tout cas incompatible avec la doctrine des millénaires. Donc là, nous, pour la question achéménide, ça nous embrouille un peu, mais nous pouvons, je pense, aujourd'hui considérer avec une certaine tranquillité d'esprit que nous possédons le trait distinctif de la religion avestique avec la doctrine des millénaires. Cette doctrine qui sera léguée au texte moyen perse. Petit détail toutefois sur lequel j'aime bien insister, ce qui fait défaut à jamais dans l'Avesta et qui semble même infirmé par le Yasht 19, et là sans doute que Philippe Gignoux avait raison, n'est-ce pas ? Ce que nous ne trouvons pas dans l'Avesta et que nous trouvons dans les livres moyen perses, ces choses que nous connaissons bien par les apocalypses, justement, c'est-à-dire que chaque millénaire, chaque fin de millénaire est marquée par des calamités invraisemblables, et que l'approche de la fin des temps est marquée, lui aussi, par des calamités, de vastes combats entre les armées du bien et du mal. Cela, nous ne l'avons pas. L'élimination définitive du mal dans la doctrine avestique et dans le Yasht 19, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'ultime sacrifice, le dernier sacrifiant, le dernier Saushian, fait son sacrifice, et il use, c'est ce qui est très intéressant, de sa caractéristique même qui est d'être matériel, pour repousser les forces du mal qui sont immatérielles. Il les regarde. Et c'est par la force de son regard matériel que le mal est chassé du monde. C'est donc une élimination d'un coup d'œil, par le coup d'œil. C'est ce que raconte le Yasht 19. Ben oui, vous savez, c'est une fin du monde sacrificielle, ce n'est pas une fin du monde guerrière. C'est la différence. Et là, sans doute, dans ces calamités et ces combats, faut-il voir effectivement l'influence des apocalypses. Je laisse d'autres que m'en juger, je ne suis spécialiste ni des apocalypses, ni des livres moyens perses, d'une certaine manière. Mais l'Avesta ne présente pas les choses comme ça. Il reste fidèle à sa doctrine, finalement fondée toujours sur la même notion récue qui revient dans chaque explication et qui est l'exercice du sacrifice. Voilà, nous avons avec cela peut-être répondu à la dernière préoccupation dont il fallait faire mention pour restituer l'importance du travail qui a été accompli sur les yachts durant les années 90, peut-être notre grand acquis. Nous aurons l'occasion d'y revenir parce que cette représentation de l'histoire cosmique a une importance considérable et nous allons devoir en reparler. Mais je voudrais aujourd'hui introduire peut-être ce qui a été encore une autre découverte de ces 20 à 25 dernières années, peut-être la dernière en date. Hein, c'est pour nous remontons un peu le temps. Au colloque d'iranologie de Ravenne, en 2003, Xavier Tremblay a fait une communication extrêmement remarquée qu'il avait intitulée « Le pseudo-gathique ». Les actes du colloque de Ravenne ne sont parus qu'en 2007, 4 ans avaient passé, mais ce n'était pas 4 ans inutiles pour une fois, parce que le texte qui a été publié dans les actes par Xavier Tremblay a été considérablement amplifié et précisé. Pendant ces 4 ans aussi, Xavier Tremblay et moi avons beaucoup parlé du vieil Avestique. J'étais pas très emballé au début. Hein. J'ai fait ce que beaucoup feraient sans doute encore aujourd'hui. Je lui ai dit, mais enfin, pourquoi parler de moyenne Avestique plutôt que d'Avestique récent archaïque? Il me dit, je ne vois pas très bien la différence. Mais je vais m'expliquer. Les échos de notre débat sont parus dans les études Avestiques et Mazdéenne 2, parus aussi en 2007. Alors, peut-être que Xavier Tremblay a fait le choix, il s'en est justifié, d'intituler son article « Le pseudo-gathique ». De quoi est-il question avec le pseudo-gathique ? C'est une notion hoffmannienne. Hein. L'idée de pseudo-gathique avait été introduite par Hoffmann pour définir un certain nombre de textes qui semblaient être en avestique récent, mais qui se donnaient les allures orthographiques, donc des allures extérieures, d'un texte en avestique ancien, en vieil avestique. Ces marques extérieures, vais-je dire, qui n'ont probablement aucune importance linguistique en soi du vieil avestique, ont le mérite d'être extrêmement visibles, sont faites pour ça. Hein, c'est l'allongement systématique des voyelles finales et le maintien des occlusives sonores intervocaliques qui ne sont pas spirantisées. Or, un certain nombre de textes avestiques récents qui se trouvent tous dans le Yasna pratiquent cette sorte de stylisation de leur langue, n'est-ce pas, de présenter un texte qui est en réalité grammaticalement de l'avestique récent, mais qui a les allures graphiques du vieil avestique. Eh bien, ces textes-là, Hoffmann les définissait comme pseudo-gathiques. Au contraire, Xavier Tremblay démontrer qu'il s'agit en fait non pas de textes récents, mais de textes moyennes avestiques. Donc, en parlant de moyennes avestiques, Xavier Tremblay remplace la notion de pseudo-gathique. Selon son analyse, les textes qui présentent ces caractéristiques graphiques du vieil avestique sont des textes très anciens et intermédiaires, dont la langue est intermédiaire entre celle de l'Avesta ancien et celle de l'Avesta récent. Voilà, c'est intéressant parce que la doctrine traditionnelle, mais éliminée par Johannes Arten en 86, attribuait ce rôle intermédiaire au Yasna Haptangraiti. depuis le livre de Nartène en 86, nous savons que le Yasnavaptinkaïti est de plein droit un texte vieil avestique, mais cela supprimait du coup tout intermédiaire entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Et il fallait supposer que nous avions là un espace temporel sur lequel aucun texte ne portait un témoignage. J'avais d'ailleurs consacré à ce sujet une communication au tout premier colloque de la Société iranologique, où j'avais parlé de 4 siècles obscurs. Et donc, bon, entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent, il nous faut postuler 4 siècles, c'est la distance la plus raisonnable, et sur ces 4 siècles-là, nous ne connaissons strictement rien. Il n'y a aucun témoignage. Ben voilà un témoignage, n'est-ce pas ? Nous avons effectivement des textes intermédiaires, selon Tremblay, entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Quels sont ces textes ? Bon, souvenez-vous, le Yasna, 72 chapitres. Eh bien, on trouve la première série de textes, tout au moins de fragments, ces fragments sont mêlés parfois à de l'Avestique récent, entre le Yasna 11-16, c'est-à-dire directement après le Homestome, du Yasna 11-16 au Yasna 15. Des textes, on doit y ajouter, avec les intercalations des Vispareth 3 à 6. Ça, c'est, je dirais, le premier groupe de textes moyen-avestiques relevés par Tremblay. Ensuite, il faut soulever le problème des textes dits avestiques récents qui sont insérés entre les chapitres de l'Avesta ancien. C'est-à-dire, cela concerne surtout le Yasna 27-15, c'est la formule dite « Yenke Hatam ». Il faut se poser aussi la question du Yasna 35-1, en principe, la première strophe du Yasna Haptankaiti, mais qui n'est pas du vieil avestique, pourrait être du moyen avestique. Alors là, c'est un de nos points de désaccord les plus importants avec Tremblay. Tremblay faisait aussi du Yasna 42, qui survient après le Yasna Haptankaiti, un texte moyen avestique. Là, je ne vois véritablement pas quel critère permettrait de le classer là-bas. Mais c'est une autre question. Alors ensuite, nous trouvons, après l'Avesta ancien, le troisième et dernier secteur, le Yasna 56, consacré à Sraoucha d'ailleurs, dont un petit fragment a été ajouté au Yasna 27-6. Mais c'est visiblement un fragment issu du texte que représente le Yasna 56. Et alors, le Yasna 58. Yasna 56. Voilà le corpus moyen avestique dans son ensemble et dans son extension maximale. Alors, comment pourrait-on, quels sont les traits qui caractérisent le vieil avestique ? C'est là que la démonstration de Tremblay peut être, c'est pas possible autrement, est le moins convaincant parce qu'il y a très peu de choses. Je vous ai exposé il n'y a pas très longtemps les critères linguistiques qui nous permettent de juger si un texte est vieil avestique ou avestique récent. Vous savez qu'en dehors de la question de la conjugaison, de l'opposition présent aoriste et puis le cas de ces pronoms enclitiques, il n'y a pas de véritable critère de reconnaissance du niveau de la langue. Il y en a donc très peu aussi qui permettent de distinguer véritablement le moyen avestique, à la fois de ce qu'il précède et de ce qu'il suit, de l'ancien et du récent. Il y a toutefois peut-être deux traits qui me paraissent, assez clairs. C'est que la désinence biche de l'instrumental à thématique a été conservée, comme en vieil avestique. Or, en avestique récent, cette désinence a été éliminée par l'extension de la désinence du datif ablatif, bio. Nous ne trouvons plus biche, sauf curieusement dans le Homestome, qui a procédé littéralement à l'envers, c'est-à-dire qu'il a qu'il a généralisé le biche instrumental au datif et à l'ablatif. Bon, mais ça, c'est une particularité dialectale du Holmstone. Donc, la désinence spécifique de l'instrumental thématique est conservée. Ensuite, il semble, mais on ne peut pas savoir si c'est un matériel de réemploi, que l'opposition systématique du présent et de l'aoriste est encore pratiquée. Et cela va de pair, c'est le corollaire, avec des injonctifs présents qui n'ont pas le sens d'un passé. Voilà les quelques traits que l'on peut attribuer au vieil avestique. Ils ne sont pas toujours convaincants, je le reconnais. Je le reconnais et c'est la raison pour laquelle Éric Pirard, par exemple, qui a beaucoup participé à nos discussions, n'a jamais été convaincu sur l'existence du vieil avestique. Mais il y a autre chose. Il n'y a pas que la linguistique. Il y a, je dirais, des caractéristiques littéraires. Et là, elles sont véritablement frappantes. Les caractéristiques littéraires des textes que nous avons ici sont les suivantes. D'abord, tous ces textes appartiennent au même genre rhétorique. Et il est intéressant de le constater. Ce sont des textes d'exégèse. Ce sont des textes d'exégèse des textes plus anciens. Ces textes-là pratiquent, avec des techniques sur lesquelles nous allons revenir, l'analyse des textes de l'Avesta ancien, que ce soit les Gatha ou le Yasna Haptangaiti. Leur situation dans le corpus, vous le comprenez bien, est déjà extrêmement intéressante, hein, puisqu'on les trouve, ils surviennent avant le corpus vieil avestique, puis immédiatement après, s'insérant parfois dans ce corpus, comme le Yasna 58, qui, au témoignage de certains textes, est censé faire partie du corpus ancien pour les exégètes de l'Avesta récent. Donc l'existence d'un genre exégétique est assurée. C'est le premier enseignement. Alors, comment pratiquer l'exégèse? Quelles techniques fondent l'exégèse? Eh bien, la citation. Visiblement, l'exégèse procède par citation textuelle. Ce n'est pas toujours facile à comprendre, pas, mais nous savons que si l'on nous parle, par exemple, de tel texte qui fait allusion au sacrifice sanglant, on peut mettre en rapport certains éléments du rituel plus récent, en y rapportant un rituel plus ancien par citation. Le Yasna 58 procède comme cela. Le Yasna 58, c'est la fin de l'offrande carnée. La graisse déposée dans le feu a été consumée. Eh bien, le feu va donc être rendu à son état domestique. Ce n'est plus le feu consacré du sacrifice. Il a accompli son travail. Il a simplement assimiler l'offrande carnée. Eh bien, le texte procédera par des citations de l'Avesta ancien où il est question du feu, de sa consécration, de la protection qu'il donne. La protection, ça, ce n'est plus justement s'occuper de la crémation de l'offrande carnée, c'est la protection du feu domestique dans la nuit, etc. Eh bien, on procède donc par des citations. Alors, il y a ces citations, elles présentent deux caractéristiques qui sont très intéressantes pour nous. C'est que ce ne sont pas toujours des textes que nous connaissons. Alors que dans les autres passages de l'Avesta, tous les textes vieil avestiques cités sont issus de ceux que nous possédons. Ça avait été l'objet d'un article d'Almut Hintze, aussi de ces années et du début du XXIe siècle, dont nous avons déjà parlé, que de montrer que pour les rédacteurs de l'Avesta récent, l'Avesta ancien était très exactement celui que nous avons aujourd'hui. Les textes, il n'y avait pas d'autres textes que ceux que nous possédons, et ils étaient édités, entre guillemets, de la même manière, c'est-à-dire qu'ils se présentaient dans le même ordre de succession. Or, justement, ce n'est pas exact si nous envisageons le corpus textuel de Tremblay. Ces textes citent des textes qui sont véritablement vieilles avestiques. On le reconnaît à la métrique, etc., à certaines caractéristiques linguistiques. Mais c'est des textes que nous n'avons plus. Des textes que nous n'avons plus. Donc les textes remontent à une époque où le corpus vieil avestique n'avait pas encore été édité, en tout cas de la manière que nous connaissons. Et ce n'est pas le corpus dont nous avons hérité. Alors, une autre manière de citer, mais différente, c'est de ne pas citer verbatim le texte, c'est de le refaire, de le recomposer. Et cette pratique-là, elle est parfois redoublée. Elle est parfois redoublée. Le Yasna 27.15, c'est le Yenke Hatam, est une recomposition de la strophe gathique 51.22, nous le savons. Une autre recomposition, cette fois-ci, du Yenke Hatam lui-même, avec une simplification encore du texte, se trouve dans le Visperet 16.3. Donc, deux recompositions successives d'une strophe gathique. Nous observons le même phénomène avec le Yasna 33.14. C'est un texte important, hein, le Yasna 33.14, puisque c'est véritablement le texte qui fonde, selon l'exégèse récente, le premier sacrifice historique de Zarathoustra, c'est-à-dire celui qui correspond au moment de l'ADN dans le schéma de l'histoire cosmique. Eh bien, le Yasna 33.14 est recomposé dans le Yasna 11.18. Et une seconde recomposition, encore simplifiée, c'est le même processus, se trouve un peu plus loin dans le Yasna 13.4. Alors, voici le quatrième enseignement de ce corpus, dont, évidemment, c'est l'effet de tout ce qui précède, hein. C'est qu'il est visible que les textes moyen-avestiques veillent à doser équitablement les allusions au Yasna Haptankaiti et au Gata, c'est-à-dire aux deux volets de l'Aveste ancien. Il y a une volonté, ça ne peut pas s'expliquer autrement, d'impartialité, de faire ouvertement allusion aux deux textes avec une équité, une harmonie parfaite. Alors, je voudrais faire remarquer deux choses à ce lieu-ci de l'analyse. L'analyse n'a pas encore été beaucoup plus loin. Nous allons essayer de la porter un peu plus loin. Hein, mais il ne faudrait pas que la querelle sur les mots pseudo-gathiques ou sur la faiblesse linguistique qui fonde le moyen avestique l'emporte aussi sur... comporte un certain aveuglement sur l'importance textuelle de la découverte de Temple de Tremblay. Car il y a deux choses qui sont ici. Une que Tremblay a vue immédiatement lui-même et qu'il a fait remarquer dans son article même. C'est que l'existence de ces textes est peut-être l'argument décisif qui doit nous inciter à abandonner la datation des Gathas dans le courant du VIe siècle avant notre ère. Ce n'est pas possible. La pratique des textes envisagés montre que l'Avesta a une longue histoire littéraire. On ne peut pas la caser en deux siècles. On ne peut pas la caser en deux siècles. Ce n'est pas, c'est absurde. Hein. Nous avons déjà vu un élément, car entre l'Avesta ancien et les textes d'intercalation, les textes qui ont pratiqué la mise en genre, je vous disais l'autre fois, il faut imaginer l'existence d'une littérature que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons que par les éléments qui ont été adaptés au texte que nous possédons et qui est celle du stock octosyllabique, comme je l'ai appelé. Mais il faut aussi tenir compte d'une littérature exégétique représentée par les textes que nous appelons moyen-avestiques, n'est-ce pas, et qui remonte à une époque suffisamment haute pour que les textes de l'Avesta ancien n'aient pas encore été définitivement triés, tels que nous les avons sous les yeux. Donc tout ça suppose une histoire littéraire beaucoup plus longue que celle que Gershevitch ou Niuli pouvaient bien reconstruire en forçant les étapes, n'est-ce pas, en un peu moins de deux siècles. Ce n'est pas possible. C'est la première conséquence de cette découverte. Il y en a une deuxième. Il y a un deuxième corollaire, et je voudrais que, ensemble, aujourd'hui, mais aussi la semaine prochaine, nous fassions ce qui n'est plus cette fois l'exposé de recherches qui ont été menées les 25 dernières années, mais peut-être allons-nous un peu anticiper. C'est tout de même que l'existence, la pratique, n'est-ce pas, de mettre sur le même pied Gatha et Yasna Abdangaiti, nous invite tout de même à essayer de réapprécier la différence possible qui existe entre les deux volets de l'Avesta ancien. Cette différence, je vous le rappelle, avait été perçue par Yohanan Arten, mais qui s'était efforcé de l'annuler immédiatement, simplement en attribuant les deux textes au même auteur. Alors, il faudrait tout de même y revenir, parce que la vérité possible qui se cache derrière cette situation, c'est qu'aux sources du zoroastrisme historique, il y a non pas une tradition, mais deux. Une double tradition dont les textes moyen-avestiques témoigneraient de l'harmonisation entre deux traditions. Alors, il faudrait peut-être, le zoroastrisme historique est la synthèse, en définitive, de ces deux traditions, il faudrait tout de même tenter d'établir véritablement en quoi les deux traditions sont divergentes, en quoi elles divergent, en quoi aussi elles se ressemblent. Alors, disons-le tout de suite, elles ne sont pas très différentes, mais il y a peut-être tout de même des différences qui présentent leur intérêt culturel et leur intérêt pour simplement la connaissance des faits de doctrine du masdéisme. Alors, le plus simple à envisager, on l'a envisagé souvent, c'est est-ce que la langue est distincte ? Si la langue du Yasna Abdangaiti n'est pas la langue des Gatha, bien sûr, les deux corpus textuels n'ont pas le même auteur, cela va de soi, ce n'est pas la même langue. Là, il est vrai, la discussion, on ne peut pas faire état d'une différence essentielle. Les deux langues sont en tout cas très proches l'une de l'autre. Je ne vois qu'un seul trait différent, en définitive, qui est son importance. C'est le démonstratif proche, celui qui est ici, le proche de moi. Le Yasna Abdangaiti a pour démonstratif proche ima, c'est-à-dire exactement le même démonstratif que le sanskrit, que l'indien, ima. Et les Gatha ont la forme non élargie, simplement i. Voilà, c'est la seule différence réelle que je puis trouver entre les deux dialectes. À vous de juger si c'est suffisant pour en faire deux dialectes distincts. Naturellement, les corpus sont limités. Alors, il y a bien sûr un certain nombre de faits lexicaux, comme dit Narten. Pirard et moi avons parlé de jargon pour ne pas parler de dialecte. Des faits lexicaux font difficilement des différences dialectales. Nous n'avons pas voulu parler de différences dialectales, nous avons parlé de jargon. Ça m'a toujours un peu gêné, je ne trouvais pas de bon terme. Je dirais aujourd'hui que ce que traduit ce lexique un peu différent que nous trouvons dans les deux textes, que cela traduit, c'est une certaine différence dans les choix terminologiques. Lorsque l'on veut exprimer une notion, c'est souvent la même notion, mais on n'a pas recours aux mêmes mots. Nous observons un exemple, nous observons bientôt un exemple très, très concret, montrer que pour exprimer la même chose, il faut recourir à des termes un peu différents. Donc il semble que l'école l'école liturgique, rhétorique qui se trouve derrière les deux corpus soit pas exactement la même. Nous avions déjà un exemple, nous avons parlé souvent, nous nous y sommes attardés lors d'un cours. C'est le choix préalable au sacrifice. Hein. Qui va-t-on choisir comme cible sacrificielle et dans quelles conditions, n'est-ce pas ? Nous avons le terme fravashi, hein, de l'Avesta récent, qui est emprunté au Yasna Abtankaiti. Hein. Seul le Yasna Abtankaiti le possède. La même notion existe dans les gathas, mais c'est aussi un dérivé du verbe var, mais ce n'est pas le dérivé frava, c'est pas fravashi, il n'y a pas de préverbe fra, et ce n'est pas un dérivé anti, c'est un dérivé neutre en na, varna, varna. C'est le choix sacrificiel des gathas. L'Avesta récent a opté pour le terme aptahatique et pas pour le terme gathique. Voilà un autre, mais nous observons encore d'autres exemples que celui-là. Alors, si vous le voulez bien, il faut voir les différences doctrinales. Nartène les a aussi énumérées. Elle les a, en réalité, multipliées, mais chaque fois en cherchant à atténuer la portée de la divergence. Jusqu'à Nartène, jusqu'au travail de Nartène, la situation, lorsque l'on considérait le Yasna Abtankaiti comme un texte intermédiaire entre les gathas et l'Avesta récent, on avait mis l'accent sur le caractère en apparence naturaliste du texte, en y voyant un premier élément du retour au passé, hein, de la réaction religieuse, hein, qui était censée alors, dans les conceptions d'alors, caractériser l'Avesta récent par rapport au Gatha. C'était un premier élément, non pas le retour des anciens dieux, dont le nom ne figure pas effectivement dans l'Yasna Abtankaiti, pas plus que dans les Gathas, mais le retour à un certain culte de la nature. C'était la différence sur laquelle Bartholomée avait insisté. Il y avait eu des livres des historiens des religions aussi qui présentaient cela. Alors, Nartène a fait un grand catalogue de divergences possibles, la plupart du temps pour montrer qu'elles ne sont pas importantes. Je vous propose de les passer en vue un petit peu, mais en essayant de, non pas nous d'accentuer la différence, de l'atténuer non plus, mais en essayant peut-être de complexifier la situation. Parce qu'en définitive, il faut peut-être l'envisager de manière peut-être un peu plus compliquée qu'elle n'est. Alors, première différence, ça c'est la grande découverte de Nartène, elle est intéressante, elle est rhétorique, c'est que l'Yasna Abtankaiti est un texte en prose. Hein, un texte en prose. C'est surtout intéressant, je vais dire, d'un point de vue indo-iranien, n'est-ce pas, car si l'on considère, nous savons enfin, grâce au Yasna Abtankaiti, que la pratique artistique de la prose, telle que nous l'observons dans les brahmanas indiens, n'est pas une innovation indienne. Il y a une technique artistique de la prose indo-iranienne. Les brahmanas en sont l'exemple indien, ils sont évidemment un exemple gigantesque par sa dimension, bien sûr, et notre petit texte iranien montre tout de même que la pratique existait du côté iranien également, n'est-ce pas ? Avec le Yasna Abtankaiti. Le Yasna Abtankaiti et les brahmanas sont les héritiers de la même technique rhétorique. Hein, qui, d'ailleurs, les analyses que Minard a fait des articulations de la prose brahmanique valent parfaitement, comme Pirard l'a montré, pour le Yasna Abtankaiti. Chose intéressante, c'est que les gathas, Nartène ne le signale pas, mais dans un endroit, les gathas semblent porter un jugement négatif sur la pratique de la prose. Donc, est-ce que le fait d'être en prose, de s'exprimer rituellement en prose, de s'exprimer en vers, avait une importance, hein, dans la pratique particulière ? Alors, nous avons aussi exprimé le soupçon, rappelez-vous, il y a peut-être une ou deux leçons, hein, sur le fait qu'à travers le genre yasna, on semble pratiquer, pas, la technique du Yasna Abtankaiti, et dès lors que l'on s'inspire du Yasna Abtankaiti, l'on casse les vers, hein, on brise l'octosyllabe. L'octosyllabe disparaît par sa mise en genre Yasna, peut-être. Hein. Donc, oui, ces faits-là ne sont peut-être pas indifférents. il y a peut-être quelque chose de, qui est caché là derrière dans cette pratique. Alors, là, la deuxième caractéristique sur laquelle insiste Narten, c'est que le yasna haptenkati n'est pas du praise and blame, comme on dit, hein, louer, condamner. Hein. Il ne pratique pas ces deux volets complémentaires qui sont la marque de fabrique même des gathas, n'est-ce pas, hein. Les gathas doivent toujours dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Il faut que l'éloge de ce qui est bien soit toujours assorti de la condamnation de ce qui est mal. Le yasna haptenkaiti, non. Il le déclare d'ailleurs dans sa première strophe authentique, le yasna 35.2, disant « Non, nous ne sommes pas des gens qui blâmons, nous nous contentons de saluer, hein, de louer. Nous ne pratiquerons pas le genre de la racine nid, hein, c'est-à-dire le blâme. » Donc, il semble que ce soit aussi un choix doctrinal, ou tout au moins un choix rhétorique, puisqu'on trouve l'équivalent dans le Rig Veda, n'est-ce pas ? Certains hymnes de Rig Veda disent « Nous ne voulons nous exprimer, disent les auteurs védiques, que par sumna », c'est-à-dire par des pensées positives. Hein, des pensées positives. Ne faisons pas le compte de ce qui est négatif. C'est extrêmement intéressant aussi, nous l'avons aussi observé l'an dernier, peut-être, en travaillant sur le texte des Gathas, c'est que alors que ce que l'on a appelé le dualisme, hein, le dualisme de l'Avesta, du Mazdéisme, n'est-ce pas, et que nous avons appelé, nous, pour l'époque ancienne, l'an dernier, l'antagonisme, les situations d'antagonisme, sont une manière de sortir de l'ambiguïté divine, qui est la règle dans le Rig Veda. Les dieux sont ambigus, n'est-ce pas ? Ils vous accordent leur faveur, mais aussi ils peuvent être nocifs pour vous, ils peuvent vous haïr. L'ambiguïté divine, il est évident que les situations d'antagonisme la suppriment, hein, suppriment tout à fait, n'est-ce pas, cette ambiguïté, puisque ou les choses sont bien ou elles sont mal. Hein, c'est une opposition frontale. Eh bien, le yasna haptenkaiti présente encore, c'est lors de la consécration du feu, comme je vous l'ai fait remarquer, une situation d'ambiguïté, puisque le feu, nous dit le texte, il est une douleur pour celui que tu veux soumettre à la douleur, dit-on à Ahura Mazda. Comme si le feu pouvait causer une douleur, mais une douleur qui n'est pas justifiée du point de vue moral. Il y a des restes d'ambiguïté dans le yasna haptenkaiti. Naturellement, encore une fois, texte court, nous jouons très peu de choses, hein, je m'en rends très bien compte. Et je préviens que ceci, nous allons très vite aussi, parce que peut-être que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, nous y passerons la leçon prochaine. Alors, troisième différence, selon Narten, elle est très intéressante aussi, c'est que le nom de Zarathoustra n'est pas mentionné. Non seulement le nom de Zarathoustra n'est pas mentionné, mais celui qui prononce le texte, hein, le locuteur du yasna haptenkaiti, eh bien, il est multiple. Le plus souvent, presque toujours, c'est « nous ». Il y a trois notations de première singulier, trois, dans tout l'yasna haptenkaiti. C'est très peu de choses. Nous en verrons une lors de la leçon prochaine. Mais alors que les gathas passent du jeu au « nous » assez facilement, hein, avec beaucoup de souplesse, et que le jeu est majoritaire, c'est le jeu qui est de loin le plus fréquent, presque massivement, le yasna haptenkaiti est rédigé en « nous » et ne prononce le nom de personne. Alors, nous avons aussi un peu commenté cette situation pour essayer de la complexifier, n'est-ce pas ? C'est que tout ce que posent ces éléments, n'est-ce pas, la question que cela nous pose, c'est le rapport avec la technique de l'énoncé du nom. Souvent, d'une certaine façon, les gathas et les yasna haptenkaiti font l'inverse. Vous savez, il y a toujours confrontation dans les textes rituels, dans les deux, entre les dieux et les hommes, entre les dieux à qui l'on sacrifie et les hommes qui sacrifient. Eh bien, dans les gathas, très fréquemment, on ne dit pas le nom de ce à quoi l'on sacrifie. On doit observer avec le nom du feu. On nous parle du feu sans prononcer son nom pendant très longtemps dans les gathas. Puis, à un moment donné, lorsque son activation est suffisante, on va prononcer son nom. Mais pendant un certain temps, l'ellipse est de rigueur. L'ellipse est maintenue. Hein. Alors que les hommes, le groupe des sacrifiants, c'est pas chaque gatha doit en faire le catalogue. Il faut énumérer ceux qui sont présents parmi les hommes. Ça se traduit par un fait très simple du point de vue lexical. Le nom du nom, Naaman, eh bien, il est systématique dans le Yasna Haptangaiti. Lorsque l'on... on va sacrifier... lorsque l'on sacralise le feu, d'abord, ce n'est pas un sacrifice, hein, on sacralise le feu, eh bien, on prend soin de dire immédiatement, voilà, au feu, nous allons prononcer tes noms. Non seulement son nom même, Attar, le feu, mais aussi ses noms métaphoriques. Hein. Il est l'ami, il est l'hôte, il est le véhiculeur. Tous ces noms vont être prononcés. Lorsque l'on sacrifie Yahoua Mazda, premier sacrifice, on va lui dire aussi, on va te prononcer tous tes noms. On va te sacrifier en énonçant tes noms. Et alors, pas seulement Ahura Mazda, mais aussi Spenta, tu es Vara, c'est-à-dire celui que nous aimons, etc. Et toute une série de noms. Les eaux, de même. Lorsque l'on sacrifie aux eaux, on spécifie aussi que l'on va prononcer leur nom. Et on va leur donner tous les noms possibles par lesquels on peut désigner les eaux. Donc il y a un rapport qui n'est pas nécessairement le même avec quelque chose qui appartient en soi à la technique sacrificielle et qui est l'énoncé du nom. Hein, l'énoncé du nom. Rappelez-vous, Mitra, dans son Yasht, l'exige. Hein, il exige, il veut le sacrifice avec énoncé du nom. Avec énoncé du nom. Ce qui montre que la pratique n'est pas quelque chose d'indifférent. Pas quelque chose d'indifférent. Alors, la question des Ameshaspenta aussi, les fameux Ameshaspenta qui sont une classe divine différente de ceux que l'on appelle Yazata, c'est-à-dire dignes du sacrifice dans l'Avesta récent, eh bien, les Ameshaspenta sont un titre aptahatique. Le gathique l'ignore. Hein, alors, un trait particulier aussi de ces Ameshaspenta aptahatiques que l'on n'observe pas dans les gathas, c'est l'insistance sur leur répartition sexuelle. Ils sont masculins et féminins. Et on le spécifie, ceux et celles. Hein, ceux et celles. On ne dira pas « ils » en général, n'est-ce pas ? On dira « ceux et celles ». Il faut spécifier, il y a les Ameshaspenta masculins et les féminins, ce qui est grammaticalement un peu curieux parce qu'il n'y a pas d'Ameshaspenta du point de vue grammatical masculin. Leurs noms sont neutres, mais enfin, ils sont assimilés à des masculins lorsque on les présente en groupe. On voit apparaître aussi quelque chose que l'on ignore dans les gathas, le Narashavan. Probablement le nom du commanditaire du sacrifice, comme dans l'Avesta récent, le Narashavan, l'homme qui soutient Asha. Or, ce Narashavan, comme les Ameshaspenta sont masculins et féminins, il est toujours flanqué de son épouse, de sa Nairi. L'homme Ashavan et sa femme, sa Nairi. Donc, la répartition sexuelle, elle se trouve aussi du côté des sacrifiants. Avec le commanditaire. Cinquième et dernière différence, nous terminerons par là. Là, c'est la différence que Narten reprend au fond au passé. Qu'en est-il de la présence du monde naturel ? On trouve le feu, oui, mais le feu, nous avons vu l'an dernier qu'il est plus présent dans les gathas qu'on peut l'imaginer. Il y a la présence du ciel, pas du nom du ciel, il n'existe pas plus dans l'Yasna Haptangraktik, dans les gathas, mais la représentation de l'espace céleste comme la forme visible d'Ahura Mazda. Nous avons vu aussi qu'on l'a trouvé dans les gathas. Il y a une mention de la terre, ben oui, une seule, mais la terre est aussi mentionnée parfois, rarement, dans les gathas, c'est autre chose. Il y a toutefois, c'est vrai, mais là nous en avons parlé, c'est une caractéristique essentielle et troublante, la centralité des eaux. Hein. Le sacrifice est rendu certes à Uramazda d'abord, mais le chapitre central, l'homme phallos, comme on dit en rhétorique, du texte sacrificiel qui est l'Yasna Aptankaiti, est longuement consacré aux eaux. Si bien que le sacrifice du Yasna Aptankaiti apparaît spécifiquement comme un sacrifice aux eaux. Et la situation même qui est accordée au Yasna Aptankaiti dans les Gathas fait que ce chapitre central du Yasna Aptankaiti est devenu le chapitre central du Yasna récent lui-même. Donc que la centralité des eaux est adoptée du Yasna Aptankaiti dans le Yasna. Et là, c'est un trait qui est extrêmement intéressant et qui est, comme je vous le disais, énigmatique. Rassurez-vous, on va essayer tout de même de préciser. Je ne dis pas de résoudre le problème, c'est pas, on ne peut pas tout faire, mais il y a tout de même autre chose à dire. Pour aujourd'hui, nous en restons là, et dès la leçon prochaine, nous consacrerons cet examen des divergences doctrinales possibles à la présence ou à l'absence de certaines notions qui pourraient caractériser les deux volets de l'Avesta ancien. Je vous remercie pour votre attention.